Victoria. Je rêve de plages lointaines, de sable blanc soyeux qui s'enfonce sous mes pieds, de vagues turquoises qui vont et viennent sur le rivage, d'un soleil orangé qui réchauffe mon visage levé. Je rêve que je marche avec mon mari main dans la main. Nos enfants courent devant, rient ensemble joyeusement. Les boucles dorées des vannes ressortent sous le soleil radieux. La tête de Chelsea et sa chevelure sombre penchée à côté de la sienne. Il creuse un trou avec un bâton, juste hors d'atteinte du va-et-vient de l'océan. Et là, Evan pousse négligemment sa sœur dans le trou. Le sable s'éboule et engloutit Chelsea d'une gorgée goulue. Le rire aux lèvres, Evan revient vers nous en courant. C'est alors que je m'aperçois que ce n'est pas un bâton qu'il tient à la main, mais une longue lame affilée. Il la pointe vers son père, prend de la vitesse, et le fantôme danse dans ses yeux tandis qu'il court sur la plage opalescente. « Tu es à moi », me dit-il en transperçant son père. « Tu seras toujours à moi. » Et il s'avance, armé de l'épée sanglante. Je me réveille au son d'un bip étrange. Ce bruit aigu me fait mal aux oreilles. Je serre les paupières comme si cela devait l'assourdir. Comme ce n'est pas le cas, je rouvre les yeux et prends conscience d'un grand nombre de choses à la fois. Je suis dans une chambre d'hôpital. J'ai une douleur pratiquement insoutenable au côté. Je suis entourée de moniteurs et différents câbles et tuyaux sont reliés à ma main gauche. J'ai chaud. Je suis désorientée. Je n'ai aucune idée de ce qui m'est arrivé. Puis je découvre enfin Michael endormi dans un fauteuil à côté de mon lit. Alors que je le regarde avec stupéfaction, il sort lentement de sa torpeur, jette un regard vers moi et s'aperçoit avec surprise que je suis réveillée. « Victoria, » dit-il d'une voix rauque. « Evan ?» demandai-je paniqué. Tout de suite, le visage de Michael grimace convulsivement. Il se lève. Il porte encore le bermuda kaki et la chemise Brooks Brothers qu'il avait chez moi. J'en suis encore plus désorientée. Quel jour sommes-nous? Que m'est-il arrivé? Comment tu te sens? Demande Michael en s'approchant du lit et en regardant les moniteurs comme s'il savait les lire. Je déglutis une fois, deux fois, trois fois. J'ai soif. Je vais appeler une infirmière. J'approuve. Il appuie sur un bouton. Evan? Tentai-je de nouveau. Il va bien. Chelsea? Il est à la maison avec Melinda. De quoi tu te souviens? Je secoue la tête. Je ne me souvenais pas, mais là ça me revient. Assise dans le canapé à côté de mon enfant ivre de soleil, un peu somnolente. Cette brusque douleur au côté. Ma main descend vers mes côtes. De fait, mon flanc gauche est recouvert d'un pansement de gaz. Pas besoin de le toucher pour sentir la douleur. La plaie rouge est enflée. Mon fils m'a poignardé. Le couteau a transpercé le foie, explique Michael, comme s'il lisait dans mes pensées. Si les secours ne t'avaient pas transféré ici à temps pour une intervention d'urgence, tu serais morte. Evan, ai-je demandé une troisième fois. Tu comprends ce que je te dis, Victoria? Tu serais morte. Une infirmière arrive. Elle entre d'un pas affairé, prend mon poignet, vérifie mon pouls, même si un encombrant appareil en plastique au bout de mon doigt doit lui donner l'information. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle en consultant les moniteurs. « J'ai soif. Je peux vous apporter de la glace pilée. Si vous ne la vomissez pas, on pourra essayer l'eau. On fait comme ça ?» J'acquiesce. Elle sort et revient bientôt avec un demi-bol de glace. J'en prends des petits morceaux avec parcimonie, car je m'aperçois que je suis de plus en plus barbouillée. Les anesthésies ne m'ont jamais réussi. Ces petits morceaux de glace sont sans doute ce que je peux faire de mieux. « Le médecin passera bientôt vous voir, » dit l'infirmière. Puis elle s'en va et Michael et moi nous retrouvons en tête à tête. « Merci d'être venu, » réussis-je à articuler, je ne sais pas quoi dire d'autre. Il fallait bien que quelqu'un vienne. C'était moi ou ta mère. Nous savons tous les deux ce qu'il veut dire. Ma mère m'aurait débranchée. Je ne suis pas sa fille à ses yeux, plutôt une rivale. Autrefois, du moins. Il y a si longtemps qu'elle n'est pas venue nous voir, moi ou ses petits-enfants, qu'elle n'a aucune idée de ma déchéance. « Evan, » insistai-je. « Evan va bien. » Il ne voulait pas. Michael m'arrête d'une main. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère. « Tu sais pourquoi je suis partie ?» m'agresse-t-il. « Tu sais pourquoi j'ai pris Chelsea et je me suis tirée de chez nous ?» Je fais signe que non. Sa colère m'effraie. Parce que je me disais que ce n'était qu'une question de temps avant que je sois obligée de tuer mon fils pour protéger ma femme et ma fille. Et c'est peut-être débile, mais je ne voulais pas tuer Evan. Merde, moi aussi je l'aime, Victoria. Moi aussi, je l'ai toujours aimé. Je ne sais pas quoi dire. Tu sais ce que tu lui as fait ? Continue-t-il, et sa voix tremble sous la violence de ses émotions. Il a 8 ans, et maintenant il va devoir affronter le fait qu'il a poignardé sa mère, qu'il a failli te tuer. Ce n'est qu'un enfant, bon sang. Comment est-ce qu'il est censé gérer ça ? Avec tout ce qui se passe déjà dans son cerveau détraqué, comment est-ce qu'il est censé réagir à un truc pareil ? Je ne sais pas quoi dire. On m'a appelée, et au ton de l'infirmière, j'ai cru que tu étais morte. J'ai foncé ici en croyant pendant tout le chemin que tu étais morte, qu'Evan t'avait assassinée. Et quand je suis arrivée aux urgences, la police avait 1 milliard de questions, les médecins avaient 1 milliard de questions. Je n'ai même pas pu te voir, on t'avait déjà emmenée au bloc en 4e vitesse. Et Evan était enchaîné à un lit d'hôpital. On lui avait mis les menottes et tout. Mon fils, mon petit garçon. La voix de Michael se brise. Il se détourne de moi, s'approche du mur et le contemple un moment. Il a fallu que j'appelle Darren, reprend-il enfin. Darren est un vieux copain de la fac devenu juriste. Il a fallu que je consulte un avocat pour Evan. Voilà où on en est, Victoria. Il ne voulait pas, essayai-je de nouveau. Michael se retourne d'un coup. Tais-toi, par pitié. Ça m'est égal que tu sois blessé. Ça m'est égal que tu aies failli mourir. Je voudrais te faire encore plus mal, Victoria. Je voudrais te filer des claques jusqu'à ce que tu comprennes une fois pour toutes que ton déni est en train de détruire notre fils. Evan voulait te faire du mal. Il a intentionnellement volé ce fichu couteau dans l'égouttoir. Il l'a ingénieusement glissé à l'intérieur du tissu sous le canapé, là où tu ne le trouverais pas. Et il l'a soigneusement retiré quand l'occasion s'est présentée, rien que pour pouvoir te le planter entre les côtes. Comment tu sais tout ça ? Comment est-ce que tu pourrais savoir une chose pareille ? Parce qu'il me l'a dit. Je le regarde avec des yeux ronds, bouche bée, incrédule. Il est brisé. Il a répondu à mes questions comme un automate. Il n'y a aucune lumière dans son regard. Il t'a poignardé, mais il s'est brisé lui-même. Et je ne sais pas si nous pourrons le récupérer. Tu es sûre que ça valait mieux qu'un établissement spécialisé, Vic ? L'amertume de ses paroles me blesse, comme c'est bien son intention. Je prends de plein fouet la violence de son sentiment d'impuissance. Sa colère rentrée pour toutes ces fois où je n'ai pas tenu compte de son avis, où je l'ai exclu de l'éducation d'Evan parce que je n'étais pas d'accord avec ses solutions, où je n'ai pas su renoncer à ma conception de ce qu'il y avait de mieux pour mon enfant. Je suis la mère maternante, Michael le père qui répare. Nous étions dès le début voués à l'échec. Est-ce qu'ils ont arrêté Evan ? Demandai-je en me déplaçant un peu sur le lit pour trouver une meilleure position. Je me sens nauséeuse, mais c'est peut-être la conversation autant que le contre-coup de l'anesthésie. Je suis certain que le mandat d'arrêt arrivera tôt ou tard. Mais pour le moment, vu la fragilité de son état mental, il est hospitalisé. Je le regarde sans comprendre. Où ça ? Ici même. Il se trouve que cette clinique possède une unité de pédopsychiatrie fermée au 7e étage. Evan y a été admis. Mes yeux s'agrandissent. Une fois encore, Michael lève la main. Je ne veux rien entendre. J'ai encore un droit de garde sur Evan, et vu ton état physique et émotionnel, je te traînerai au tribunal s'il le faut pour demander la garde exclusive. Notre fils vient de faire un épisode psychotique. Il est là-haut et il y restera. Ce n'est qu'un enfant. C'est bien pour ça qu'il est dans une unité pédiatrique. Et puisque tu le demandes si gentiment, c'est un excellent service de soins intensifs, chaudement recommandé, considéré comme très en pointe dans le traitement des enfants atteints de troubles mentaux. Tu pourras aller le voir quand tu voudras, à supposer que tu te rétablis suffisamment pour sortir de ton lit. Salaud. J'aurais dû devenir un salaud plus tôt, dit-il impassible. On aurait peut-être pu éviter ça. Je ne suis pas une mauvaise mère, murmurai-je au bout d'un moment. Ça paraît bête à dire alors que je viens de me faire poignarder par mon propre enfant. Mais Michael paraît comprendre. Son visage se décrispe. La tension quitte peu à peu ses épaules. Il soupire, se frotte le front, soupire à nouveau. Non, tu n'es pas une mauvaise mère, Vic. Et je ne suis pas un mauvais père. Et Evan, quand il est Evan, n'est pas un mauvais gamin. N'empêche qu'on en est là. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne porterai pas plainte, dis-je d'un air de défi. Sans moi, ils ne peuvent pas l'arrêter, n'est-ce pas? Mon estomac se soulève. Je vais vomir. Mais Michael n'est pas d'accord. Ce n'est pas si simple, Vic. Il t'a donné un coup de couteau et il l'a avoué à la police. Les agents vont préparer des déclarations sous serment. Et le procureur pourra s'en servir pour demander un mandat d'arrêt. Darren pense que le juge acceptera sans doute qu'Evan soit provisoirement placé en établissement psychiatrique plutôt qu'en centre pour jeunes délinquants. C'est la première étape. Ensuite, on va laisser la procédure suivre lentement son cours et se concentrer sur les moyens d'améliorer la santé mentale d'Evan. Si on arrive à démontrer qu'il est stabilisé, il se peut que le juge soit plus clément. C'est envisageable. Mais ça va prendre du temps, Vic. Du temps pour lui, du temps pour toi, du temps pour le système judiciaire. On en a pour un moment. La perspective me fait horreur. Evan dans une unité fermée. Mon fils de 8 ans placé en établissement spécialisé pour une durée indéterminée. À mon tour de détourner le regard, de contempler les murs blancs. Il y a tellement de choses que je voudrais dire à mon fils. Que je l'aime. Que je crois toujours en lui. Je ne suis pas dans le déni, j'ai vu les ténèbres dans ses yeux. Mais j'ai aussi vu la lumière. J'ai vu tous ces moments où Evan arrivait à être Evan. Et je ne les aurais ratés pour rien au monde. Une idée me vient. Intriguée, je tourne la tête vers mon mari. Tu as dit que j'avais eu la chance que les secours m'aient conduite à temps à l'hôpital. Mais comment ils ont su? Qui les a prévenus? Michael met les mains dans ses poches. Evan, répond-il finalement. Il a fait le 911, dit à l'opérateur qu'il avait donné un coup de couteau à sa mère. Il a expliqué que tu saignais et que tu avais besoin d'aide. Il a voulu me sauver. Peut-être, peut-être pas. L'opérateur lui a demandé ce qui s'était passé. Tu sais ce qu'il a répondu? Je secoue la tête, perplexe. Il a dit que c'était le diable qui l'avait poussé à faire ça. Et que l'ambulance ferait bien de venir vite, parce que le diable n'en avait pas encore fini.